Et alors j'ai quand même le sens de la hiérarchie, un sens quasiment militaire, c'est peut-être de dire ouvert d'urinesque, puisque la patronne, si je puis dire, n'était pas satisfaite de vos premiers titres, et donc j'en ai changé, parce qu'à l'origine, c'est quand même Nathalie qui dirige, et donc c'était la vision proustienne de c'était esprit de son temps mais pensée de sa propre recherche. Il y avait un petit jeu de mots, mais bon, j'y ai renoncé sans trop de difficultés. Alors l'image que Le Temps retrouvé donne de la guerre de 14 sera bien sûr ici mise en rapport avec les spécificités d'un univers romanesque qui aura su assimiler en cours de route cet événement considérable avec une facilité étonnante. Et on est parfois étonné de penser que Proust, qui a quand même eu une image d'écrivain tourné vers le passé, écrit vraiment au présent. S'il fallait faire des comparaisons actuelles, même les principaux romans sur le 11 septembre, enfin il y en a beaucoup de mauvais, mais il y en a quand même quelques-uns comme Delillo qui sont intéressants, mais il y a quand même eu quelques années d'intervalle. Donc là, c'est cette étonnante, il y a quand même peu d'exemples, cette étonnante intégration d'un univers, d'un événement historique considérable à un univers conçu antérieurement. Mais on s'attachera en même temps aux convergences, sans doute plus nombreuses qu'on pourrait le penser. Et Pierre-Edmond Robert en a déjà un peu parlé la dernière fois, avec la vision comparée de l'avant et de l'arrière que proposent d'autres écrivains français contemporains de Marcel Proust, qui a priori pourrait être tenu, bien plus qu'un original de génie évidemment inenroulable, pour des témoins fiables en matière d'histoire, des mentalités de ces temps de guerre. Et ce pour plusieurs raisons évidentes. D'une part, parce qu'ils ont en général eux-mêmes participé au combat. Il y a quelques exceptions comme Jules Romain, mais pour ce qui est de la littérature en général de la guerre de 14, ce sont un peu des témoignages de combattants, qui se présentent souvent, même quand il s'agit de fiction, sous la forme de journaux. D'autre part, parce que le reste de leur œuvre apparaît davantage tourné vers les questions politiques, alors que Marcel Proust, bien entendu, on peut le dire, dit constamment du mal de l'histoire et de la politique. Et puis, d'un point de vue esthétique, parce que leur esthétique du roman comporte une composante néo-naturaliste marquée qui s'oppose à l'indifférence et à l'hostilité de Proust, qui s'exprime avec force dans Le Temps retrouvé, envers toute littérature de type réaliste. Donc, a priori, un tel sujet ne semblait pas convenir à un axe essentiel de l'esthétique proustienne. Indice lexicologique de cette forte consonance avec les préoccupations, mais pas pour autant avec les préjugés idéologico-langagiers de l'esprit de son temps, Proust introduit dans la dernière partie d'À la recherche du temps perdu quelques-uns de ces mots triviaux qui constituent, on peut le dire, des marqueurs d'esprit du temps. De cet état d'esprit si particulier du temps de la Grande Guerre en France. Mais avec déjà, à chaque fois, on peut le remarquer, un léger écart critique ou ludique, une pointe de paradoxe incongru par rapport aux clichés d'époque attendus. Et glosse, par exemple, des mots comme « poilu », dont Saint-Loup perçoit et concède la vulgarité, tout de même, avant de juger ce mot pourtant épiquement prometteur. Donc, toujours nuance, réticence et admission sous bénéfice d'inventaire, comme bourrage de crâne, mais paradoxe proustien, pour le narrateur, la principale forme du bourrage de crâne est celui qu'on s'inflige à soi-même et non celui qui vient de l'extérieur. Embusqué, bien entendu, qui est quand même parfois employé de manière courante dans le temps trouvé, mais qui par exemple se dissimule, si on peut dire, s'embusque de façon burlesque dans le langage de Madame Verdurin sous la forme substantivée, moins immédiatement reconnaissable, d'embuscage quand il s'agit des interventions que multiplie Madame Verdurin auprès des autorités pour éviter que la guerre, nouvelle ennuyeuse, ne fasse lâcher quelques-uns de ses fidèles envoyés au front. Comme Bosch, évidemment, mais Pirat va nous en parler de façon bien plus détaillée, je n'insiste pas, mais je souligne simplement l'écart paradoxal et ludique le plus étonnant. Pour Françoise, Bosch est un gros mot qui est une injure trop énorme pour qu'on puisse l'appliquer à des Allemands. Et à certains moments, Françoise se dit que quand même on exagère d'appeler des Allemands Bosch. J'ai donné à chaque fois qu'une occurrence, mais à chaque fois on pourrait envisager tout un réseau ironique, mystificateur, un peu profanateur autour de ces mots d'époque, autour de ces marqueurs de l'esprit du temps patriotique de la Grande Guerre en France. De même, si l'on passe en revue, ce que je commencerai par faire ici, quelques-unes des principales composantes de la satire amère de l'arrière dans Le Temps retrouvé, de son héroïsme par procuration sanglante, de son égoïsme, de ses mensonges, de son snobisme et même de ses débauches, on s'aperçoit que Marcel Proust ne se distingue pas toujours substantiellement, contrairement à ce qu'on a parfois cru en exagérant l'originalité sulfureuse de ses leitmotifs en ce domaine. Peut-être effectivement en ne contextualisant pas assez de toute une littérature de témoins qui fait volontiers alterner, comme il le fait, les horreurs physiques de la guerre de tranchées à l'avant, enfin du moins c'est allusif dans le temps, c'est beaucoup plus direct évidemment dans toute une littérature sur la guerre de 14, et là c'est central chez Proust, des espèces de monstruosité morale tranquille à l'arrière. Et l'esprit combattant, l'esprit ensuite ancien combattant, se repaît amèrement, sarcastiquement, de ces turpitudes de l'arrière. Ça n'était pas particulièrement original, ça n'était même pas particulièrement sulfureux, à quelques exceptions près, et là, il n'est qu'à noter les passages censurés, par exemple, dans Les Croix de Bois, le pillage de la maison, des maisons de Français, par exemple. Enfin, il y avait des choses qu'il ne fallait pas dire, mais parler des embusqués, parler des profiteurs de guerre, parler du snobisme à Paris, ça n'était pas particulièrement un écart par rapport à l'esprit du temps. Littérature de témoins dont les deux principaux représentants furent en France le prix Goncourt de 1917 pour un livre de 1916, Le Feu d'Henri Barbusse, et, comme on le sait, le presque prix Goncourt de 1919, Roland d'Orgelès, l'auteur des Croix de Bois, dont on sait qu'elles furent devancées par les jeunes filles en fleurs aux grandes dames de certains anciens combattants, mais dont on remarque moins qu'elles furent ensuite lues avec émotion par Marcel Proust lui-même, qui se livre certes à un pastiche du sentimentalisme et du caractère mélodramatique de certains aspects de cette littérature de guerre, mais qui ne la méprise pas, qui est loin de la mépriser autant qu'on pourrait le penser. Dans une lettre de la dernière année de la vie de Proust, à Gaston Gallimard, du 3 février 1922, Proust juge les croix de bois, belles, émouvantes, sobres et vraies.
Mais c'est pour dénigrer d'ailleurs le livre suivant de d'Angelès, mais enfin, il y a quand même une sensibilité justement aux souffrances du front qui est constante chez Marcel Proust. Et une hypothèse, je pense, c'est que justement, l'avant reste sacré pour Proust. On peut se déchaîner à titre de bouc émissaire pour tout ce qui est de l'arrière, y compris d'ailleurs sur la naïveté des soldats au bordel de Jupien quand ils sont à l'arrière, mais l'avant demeure quelque chose d'absolument protégé et de sacré, y compris chez Proust. Alors à chaque fois, cependant, ces thèmes d'époque auront traversé le filtre non seulement de ce fameux style et de cette fameuse vision, mot essentiel de l'écrivain original dont parle si bien Le Temps retrouvé, mais aussi de cet ensemble de croyances proustiennes dans des essences et dans des lois atemporelles dont la mature didactique finalement pouvait servir de bouclier intérieur contre ce systématisme bien plus fruste et bien plus redoutable que représente en temps de guerre, pour la sûreté de l'esprit, comme disaient les surréalistes en quelque sorte, une idéologie dominante d'époque. C'est-à-dire qu'en fait, les leitmotifs proustiens, qui sont tellement didactiques eux aussi, ont sûrement servi à Proust de protection contre la doxa de l'époque. Et très souvent, et en particulier ça sera l'axe de l'exposé, très souvent, une vision essentialiste, atemporelle, s'oppose très fortement à l'idée que la guerre de 14 est un événement inouï, sans précédent, sans suite, la guerre des guerres, etc. Et ça, c'était effectivement, dans l'image de la guerre de 14, c'était extrêmement fort, quelque chose qu'on ne pouvait comparer à rien. Or, Proust compare constamment la guerre de 14. C'est effectivement le comparatisme proustien, ça pourrait être vraiment un des pères fondateurs de notre discipline. C'est un comparatisme qui a en soi quelque chose de profanateur et qui est en soi en décalage par rapport à l'esprit du temps. Et j'essaierai de montrer cela dans un premier temps. Donc je commence par les leitmotifs proustiens, avec quelques rapprochements justement, avec un autre grand écrivain, évidemment c'est Céline, avec Drieu-La Rochelle, avec effectivement les plus célèbres de ces auteurs de romans sur la guerre de 14, sur le moment comme un peu après, comme d'Orgelès ou comme Barbusse. Alors, la dénonciation satirique des mensonges du bourrage de crâne est un classique de la littérature sur la Première Guerre mondiale. Et les soldats au front ne sont absolument pas dupes des mensonges de l'arrière. Il y a même chez eux une haine pour les littérateurs de l'arrière que Jules Romain définit ainsi. Dans Prélude à Verdun, ceux que les hommes du front détestent et méprisent le plus. L'armement allemand est quasiment hors d'usage, les mitrailleuses s'enrayent, les victoires qui paradoxalement rapprochent le front de Paris, auquel Proust fait une allusion ironique, évidemment, dans Le Temps retrouvé, hein, le communiqué de victoire, mais on s'aperçoit que la victoire suivante a rapproché le front de Paris, etc. Toute cette ignominie et cette absurdité de la propagande de guerre, finalement, la fameuse idée, une autre expression tellement fréquente à l'époque, l'idée du dernier quart d'heure. Et ça aussi, ça exaspère les combattants. En somme, le narrateur ou même Charlus ne sont pas plus lucides ni plus défaitistes que les soldats des Croix de Bois. Si on relit les Croix de Bois, on s'aperçoit que cette indignation contre les journalistes de l'arrière, contre les Norpois, contre les Brichot, contre le grand Dain, et puis Morel qui a joué même un peu ce rôle pendant un temps, les femmes et du monde évidemment, eh bien c'est vraiment un leitmotiv d'époque. Peut-être qu'une des originalités de Proust tout de même à cet égard, du point de vue intellectuel et du point de vue en même temps humain et moral, c'est la vigueur avec laquelle se trouve dénoncée la déshumanisation de l'ennemi. Proust, par exemple, aime beaucoup en 1914 une nouvelle qui évoque le sauvetage chevaleresque par un soldat anglais d'un soldat allemand blessé. Et là aussi, Proust se livre un pastiche de la littérature mélodramatique, mais en même temps, il peut tout à fait être lui-même, avoir des tendances favorables au sentimentalisme, bien entendu. Donc, vigueur avec laquelle se trouve dénoncée la déshumanisation de l'ennemi, dont tout laisse à penser que c'est par noblesse d'âme, et pas seulement par atavisme germanophile, ou par complexe mécanisme homosexuel retors que Saint-Loup, comme Charlus, la refuse. Dénonciation du dénigrement chauvin de toute la culture allemande, et ce leitmotiv apparaît très souvent dans la correspondance. Par exemple, dans une lettre émouvante, en novembre 1914, à Reynaldo Hahn, dans laquelle Proust s'exprime dans leur français travesti habituel, qui semble soudain mimer justement l'écart, l'anticonformisme de la pensée exprimée. « Ne croyez pas ce que Bourget dit de Kant, c'est mensonge », écrit en français enrhumé, comme parfois Proust aimait le faire quand il s'adressait à Reynaldo Hahn, ce conseil. « Ne croyez pas ce que Bourget dit de Kant », et ça revient évidemment très souvent. On ne peut plus dire du bien de Schiller qu'en soulignant qu'on a fait la guerre ou que ses fils sont morts à la guerre, etc. Enfin, tout ce que les clichés de Norpois sur Goethe, sur Beethoven, etc. Donc ça, cette dénonciation du dénigrement de la culture allemande, qui est sans doute allée plus loin en France par rapport à l'Allemagne qu'en Allemagne par rapport à la France, d'après les historiens. On n'a pas tellement remarqué non plus à quel point le déplacement de Combray sur la ligne de front et la destruction dans la fiction dénoncé par Charlus de la cathédrale de Combray par les Français et par les Anglais, établissait en somme une symétrie ostensible, hein, même si Charlus dit oh, « ben, je ne veux pas comparer les deux destructions », entre les exactions des deux camps et relativiser dans la transposition romanesque de la guerre le scandale du bombardement de la cathédrale de Reims par les Allemands, lequel a suscité, comme on le sait, l'indignation de Proust lui-même et de nombreux intellectuels français, par ailleurs habituellement peu adeptes des déchaînements punitifs contre les exactions de l'ennemi. Donc, est introduite dans la fiction destruction scandaleuse qui, d'une certaine façon, rétablit certaine forme d'équilibre. Le mauvais double du narrateur Bloch est bien entendu, comme toujours dans la recherche, chargé d'incarner la pire contradiction de ces bourreurs de crâne de l'arrière. Jusqu'au boutiste et sanguinaire quand il s'agit des autres, durant la période où lui-même bénéficie encore d'une réforme pour mieux pis, mais soucieux à l'extrême de protéger sa propre vie. Et là, ça rejoint justement un leitmotiv très important chez Proust, qui est le sens du concret et le sens de la souffrance des autres. Et constamment, et ça, évidemment, au moment des morts naturelles dans la recherche, ça apparaît. Aude Leroux en parle très bien dans sa synthèse sur la mort parue dans la collection Champion. C'est à la fois la pitié pour les autres et la détestation du mauvais abstrait. Or, là, avec le bourrage de crâne, on tombe évidemment à plein dans ces deux attitudes odieuses. Attitude détestable et pitoyable, justement évoqué très souvent avec une ironie amère dans la littérature de guerre écrite par ceux de l'avant, par exemple dans les Croix de Bois de Dorgemès. On devrait faire une grande offensive, disait d'une voix courte un gros monsieur. Ça, c'est des Croix de Bois. On devrait faire une grande offensive, disait d'une voix courte le gros monsieur aux yeux en boule. Avec ta viande, lui cria Sulfard dans le nez, ou dans le feu de Barbus. Et là, c'est souvent justement une ironie très, très appuyée. Hein. Ça doit être superbe une charge, hein, toutes ces masses d'hommes qui marchent comme à la fête, qu'on ne peut pas retenir, et qui crient « Vive la France !» ou bien qui meurent en riant. Ah, nous autres, nous ne sommes pas à l'honneur comme vous. Attitude que Proust dénonce dans sa correspondance par une formule que je trouve vraiment très belle, très frappante, et qu'on peut souvent réutiliser, belle formulation aphoristique. « Je n'ai jamais compris » qu'on fit de l'héroïsme pour le compte des autres. Et formulation justement que j'ai reprise récemment dans un article dont Pierre Louiret, dont je suis content d'avoir la présence aujourd'hui, dans un article qui vient d'être accepté par la Revue d'Histoire littéraire de la France que dirige Pierre Louiret, donc à propos justement du rapport à la folie des surréalistes, qui très souvent donne l'impression de faire précisément de la folie pour le compte des autres. Et un peu d'ailleurs de l'héroïsme aussi pour le compte des autres par la même occasion. Seconde spécificité proustienne en ce domaine, l'importance que revêtent dans Le Temps Retrouvé le décryptage linguistique de la propagande de guerre des journalistes et des littérateurs, la satire par le narrateur et par Charlus des innombrables clichés prétentieux contenus dans les articles patriotiques de Norpois ou de Brichot, hein, qui finissent par se confondre un peu, mais avec quand même quelques... Proust est toujours assez subtil pour différencier, mais quand même dans une espèce de trait commun assez manifeste. Alors cette dimension du Temps Retrouvé s'inscrit manifestement dans la tradition flaubertienne du dictionnaire des idées reçues, ainsi justement que l'a bien montré précisément Pierre Louiret dans les louchonneries de Proust, Marcel Proust 7, là, dirigé par Bernard Brun chez Minard. Il y a une tradition flaubertienne, bien sûr, Proust est tellement lu Flaubert, ayant fait un de ses premiers pastiches sur Bouvard et Pécuchet, alors qu'il n'était pas d'ailleurs si habituel d'admirer Bouvard et Pécuchet. Mireille a parlé évidemment beaucoup de ce rapport à Flaubert à propos de Bouvard et Pécuchet, à propos des lieux communs de Madame Bovary, de l'éducation sentimentale dont je reparlerai un peu tout à l'heure. Donc c'est une tradition flaubertienne, c'est aussi une tradition, on peut dire, germanique justement. Et là, Proust ne l'a pas connu, mais il y a une œuvre qui n'a été traduite qu'en français récemment, très importante, qui est « Les derniers jours de l'humanité » de Karl Kraus, hein, qui recense précisément les lieux communs dans la rue, des gens simples, du type Françoise, le maître d'hôtel, etc., au moment de la déclaration de guerre. Et il y a un côté sprachkritik, comme dit en allemand, dans cette analyse de la sottise du langage, qui évidemment révèle bien d'autres choses à propos d'une horreur vécue évidemment de façon terrifiante et directe par les soldats. Les impostures de la langue, et là, évidemment, on est proche aussi de ces lignes, bien sûr, début du Voyage au bout de la nuit. Et on est proche aussi d'un grand romancier que Pierre-Edmond Robert a édité, qui est vraiment, que j'ai découvert grâce à lui, Petit Louis récemment, sur la guerre de 14. C'est vraiment un des textes les plus admirables. C'est d'ailleurs seulement une petite partie, mais même ce qui précède et ce qui suit est tout à fait étonnant. Et puis il y a aussi la zone verte, avec justement cette cette affirmation amère de la guerre ayant fait se dégonfler les grands mots. Et Céline aurait pu dire la même chose. On était revenu de cette guerre avec des idées à soi sur les hommes et sur la mort. On avait vu se dégonfler de grands mots. On ne croyait plus aux professions d'héroïsme et de vertu. Et cette connaissance durement acquise devait être pour certains d'un meilleur prix que le carnet de pécule ou la prime du combattant, allusion évidemment à ces gratifications dérisoires qu'on a données aux combattants. Mais tout de même, peut-être parce que Proust avait une connaissance de l'avant moins directe de celle qu'en ont eu la plupart des représentants de toute une littérature de témoignages consacrés à la guerre, peut-être justement parce qu'il n'aimait pas parler de ce qu'il ne connaissait pas directement, parce qu'il ne voulait pas tomber dans cette bassesse, ce qui domine dans l'angle analytique et satirique que privilégie le temps retrouvé sera les contradictions logiques et les ridicules rhétoriques inhérents à la propagande de guerre. Et Proust ne mettra que plus rarement en évidence ce qui domine dans l'humour noir indigné des romanciers qui ont connu les combats, c'est-à-dire l'horreur odieuse de l'écart entre les mots clean et boursouflés du bourrage de crâne de l'arrière et la réalité sanglante et sordide de la vie dans les tranchées. Il y a une belle formulation d'André Breton dont on évoquait le nom à propos de la guerre de 14 dans ses entretiens bien ultérieurs. Il parle de la guerre comme d'un cloaque de sang, de sottise et de boue. Une belle allitération, une belle syllabe. Marcel Proust est justement tout de même aussi plus nuancé dans certaines de ses lettres. Mais évidemment, la lettre qu'on citera, c'est une lettre à Lucien Daudet, dont on sait quand même, même si c'est pas Léon, quand même, la mouvance, dont on connaît la mouvance politique. Donc il se reprend à la fin, et justement, il y a quelque chose d'un peu paradoxal dans la fin de cette lettre. Toute chose du reste, je vous relis la lettre, quel repos déjà de lire ces pages où il n'y a ni poche, ni leur coultour, ni pleurer comme un gosse, ni serrette, ni tout le reste, mais toute chose du reste qu'on supporte bien facilement tant on souffre en pensant aux martyrs des soldats et des officiers et tant on est ému de leur sacrifice. Donc, au fond, l'immensité des souffrances des soldats est invoquée à titre de circonstances atténuantes à la fin de ce passage et pas à titre de circonstances aggravantes pour ceux qui se permettent de faire des phrases creuses sur des souffrances dont ils ne peuvent avoir nulle idée. Évidemment, ça renvoie à toutes les contradictions idéologiques qui sont présentes dans la recherche, à tout le milieu des amitiés parfois assez droitières, comme on sait, de Proust, et puis au patriotisme très fort. Et là aussi, on en a un peu parlé les séances précédentes, je ne pense pas que tous les passages sur l'union sacrée, par exemple, soient à prendre comme des parodies. Il y a vraiment des passages qui pourraient illustrer l'union sacrée. L'union sacrée, c'est presque la chanson de Maurice Chevalier, hein, à un certain moment, dans le... tout ça, ça fait de très bons français, c'est mieux, enfin, c'est un autre style, mais dans une page du temps retrouvé. Alors je reprends les leitmotifs qui finalement sont communs à Autant retrouvé et à d'autres romans plus simples de témoignages sur la guerre de 14, l'idée qu'on mène joyeuse vie à Paname. Certains mènent joyeuse vie à Paname comme si la guerre avait lieu à Madagascar ou chez les Chinois. C'est ce qui explique à l'intention de ses camarades chez Dorgelès, un soldat du front de retour de Montmartre. Ce que constate aussi dans le passage célèbre du pauvre permissionnaire chez Proust, ce pauvre permissionnaire échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort, dont le narrateur évoque le regard las et scandalisé voyeurs du bonheur insolent des profiteurs de guerre et des embusqués, de même que les pauvres pêcheurs de Baalbek l'étaient du luxe de la vie des riches devant les vitres de ce somptueux aquarium illuminé que constituait pour eux la salle à manger du grand hôtel. Alors une parenthèse qui me paraît importante, l'éloignement du narrateur dans la fameuse maison de santé, qui est évidemment un écart par rapport à la biographie de Proust. Ça a au moins deux grands avantages. D'abord, d'éviter de s'apesantir sur sa non-mobilisation. Vous avez parlé la dernière fois, qui est quand même... son état de santé est grave et sérieux. Et puis, deuxième avantage, lui donner ce fameux regard extérieur, déjà du roman du XIXe siècle, presque exotique, par rapport au Paris de la guerre. Ces retours permettent au fond au narrateur d'avoir la même vision distanciée, étonnée, à la fois étonnée, scandalisée et amusée, que la vision des permissionnaires. Ça lui permet artificiellement de faire coïncider les deux visions. Alors évidemment, le degré de profanation dans l'évocation de la libido scandaleuse de l'arrière, même si le thème des débauches de l'arrière est très courant aussi dans cette littérature de guerre, ça atteint un degré de profanation supplémentaire dans Le Temps retrouvé. Donc, alors, entre il n'était pas question, bien entendu, que Le Temps retrouvé parut comme le feu ou comme Vie des martyrs de Georges Duhamel, alors que la guerre durait encore, ni même tout de suite après-guerre. Ça explique l'écart. Et il y aurait effectivement, comme disait Nathalie, une étude de réception à faire sur la réception à la fin des années 20 du Temps retrouvé, qui n'a pas encore été vraiment faite, mais tout de même, le scandale était nettement émoussé. Hein, c'est l'époque où on croyait le plus à la paix dans l'entre-deux-guerres, en plus de la fin des années 20. Donc, certainement que l'effet de scandale aurait été beaucoup plus grand à tout de suite après la guerre, à plus forte raison évidemment pendant la guerre. Donc sur ces débauches de l'arrière, il n'est pas rare, c'est un topos de ces romans de guerre, qu'à son retour à Paris ou dans son village, le pauvre Piu-Piu découvre qu'il n'aura pas seulement été estropié au cours des combats, mais aussi trompé et abandonné pour quelques planqués, ce qui arrive à la fin des Croix de Bois, au personnage simple et exemplaire de Sulfar, dans un chapitre que Dorgelès intitule ironiquement « Le retour du guerrier ». Alors bien entendu, chez Proust, les femmes trompent et trahissent souvent aussi, mais elles n'auront pas, quant à elles, eu besoin d'attendre la guerre pour courir les Forcheville ou les petites blanchisseuses. Il est tout de même plus original et plus sulfureux de représenter ce jeune soldat naïf en prostituée de bordel homosexuel, mêlant dans la maison de passe de Jupien au commerce de son corps de fervente tirade patriotique. Là, il y a un effet de scandale de la contamination. Et j'en reparlerai aussi à propos de l'homosexualité. Il y a eu un tel tabou de l'homosexualité dans l'armée pendant très longtemps, ne serait-ce que cela. Enfin, ce télescopage a vraiment quelque chose de bien plus scandaleux que de dire simplement que les femmes de l'arrière couchaient avec des embusqués, avec des planqués, que les pauvres soldats, quand ils revenaient, ils trouvaient souvent le foyer déserté. Ça, c'est vraiment un topos de la littérature de témoins. Ça va un peu plus loin chez Proust. Alors ce patriotisme des soldats du bordel de Jupien, est-ce que c'est une manière pour Proust de démentir de façon bouffonne ses soupçons de trahison potentielle liés à l'homosexualité qu'avait mise au jour en Allemagne l'affaire Hollenbourg, comme on sait qu'il a beaucoup frappé Proust, et qui pesait a priori sur des invertis qui, au fond, ayant déjà trahi leur sexe, étaient censés pouvoir trahir aussi aisément leur pays? Ça se discute, parce qu'en même temps, il y a le cycle très tortueux de Monsieur de Charlus pendant la guerre, qui établit une corrélation constante entre les attirances sexuelles et les pratiques perverses du baron, avec des raisonnements extrêmement tortueux sur le sadomasochisme, le rapport aux soldats anglais, le rapport aux Allemands, etc., et les propos pacifistes, défaitistes, ou même carrément pro-allemands, que Charlus tient sur la guerre. Donc cela, ce serait au contraire plutôt de nature à corroborer cette association patriotarde et ordre moral très fréquente entre homosexualité et danger de, d'espionnage, de trahison. Ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que Proust a toujours la tentation du paradoxe bouffon, retors et profanateur, et là c'est sulfureux, et là c'est original, quand il s'agit de ce sujet éminemment sacré dans la France de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre, qu'est l'accusation d'espionnage. Chaque époque a ses tabous, bien sûr, c'est pas d'ailleurs politiquement correct de mettre sur le même plan les tabous actuels et ceux d'autrefois. Je dirais que l'équivalent, justement, ça serait par exemple la pédophilie actuellement, hein, qui est traitée en revanche avec une légèreté dans la recherche, y compris avec les au bordel de Jupien, aller chercher un enfant de cœur, hein, un mutilé ou un enfant de cœur. Bon. Tandis que, à l'époque, vraiment, c'était le parricide d'ailleurs l'équivalent. Le meurtre absolument sacré, pour la peine de mort, c'était le parricide. C'était pas... bon. Et puis, c'était ce qui maintenant n'a même plus vraiment de sens. Enfin, c'est comme dans le film de Godard, trahir les pays extérieurs. Je ne trahirai jamais les pays extérieurs. Enfin, il n'y a plus l'espion cherche l'Ouest, l'Est, etc. Bon, donc Et Proust fait de l'esprit constamment avec l'espionnage. Alors je rappelle simplement l'hypothèse de Madame Verdurin. Charlus devait être un espion, sa propriété dominait la mer. Il devait faire des repérages pour une base pour les sous-marins marins allemands. Les Verdurins sont tellement bavards que les secrets sont éventés. Heureusement, ils sont faux, donc il y a des espions partout. Heureusement, ils ne répercutent que de fausses nouvelles. Le soldat qui croit qu'on va s'en prendre à sa vertu patriotique alors qu'on n'en veut qu'à sa vertu tout court, etc. Et alors un passage dans les brouillons que je trouve qui m'a beaucoup fait rire. L'admiration de la mère du pianiste pour Swann, dont elle est persuadée que c'est un espion prussien. Swann seul lui avait fait une grande impression. On sentait l'homme du monde, l'homme habitué aux grandes manières, et avec cela une simplicité. Elle était persuadée que c'était un espion prussien et que ses moustaches étaient postiches. Donc, très très souvent, alors évidemment, il s'agit jamais de véritable espionnage, hein, c'est qu'une illusion bouffonne, etc. Mais quand même, ce thème de l'espionnage, qui est tellement, enfin la cinquième colonne, quand on voit les affiches aussi sur aussi bien pour les deux guerres, et là, c'est évidemment, ça donne libre cours à des effets absolument grotesques à propos de tel ou tel personnage. Alors je voudrais maintenant superposer, faire quelques superpositions ponctuelles avec des notations amères et satiriques relatives à l'arrière de deux écrivains français, Louis-Ferdinand Céline et Pierre Trieux La Rochelle, dont un des points communs, et bien entendu qu'ils ont été engagés plus tard dans la collaboration, mais qui ont d'abord fait la guerre de 14 et dénoncé avec une grande lucidité ce que Céline appelle les artifices saladiers du bourrage de crâne, les bobards, les mensonges des littérateurs de guerre. Et il y aurait évidemment une belle comparaison à faire entre la vision de la guerre, les visions de la guerre respectives de Proust et de Céline, dont les livres qui évoquent le conflit dépassent bien entendu en puissance stylistique et en valeur esthétique toute la littérature de témoignages sur cette guerre, mais qui en retrouvent néanmoins souvent les principaux leitmotivs. Par exemple, la scène exemplaire de l'égoïsme de l'arrière, de ceux, et c'est souvent d'ailleurs celle de l'arrière, dans une littérature volontiers misogyne, à travers deux minuscules scénettes alimentaires emblématiques d'un mélange bouffon d'affectation patriotique et d'insensibilité égoïste au malheur d'autrui. Alors, je n'ai pas reproduit, évidemment, devant des Proustiens qui connaissent la recherche par cœur. Pour certains, ce n'est pas la peine de reciter la scène de l'absorption des croissants de Pistonnet par Madame Verdurin, obtenue grâce à une ordonnance de complaisance de Cottard. Donc le plaisir que procure à Madame Verdurin ses croissants est sans commune mesure. Il y a une mise en rapport d'allure mathématique qui met burlesquement en rapport les deux infinis à cet égard, avec un souvenir de Pascal que Proust cite souvent, avec la peine qui est censée lui causer le naufrage du Lusitania, dans lequel ont péri plus d'un million de personnes et dont elle apprend la nouvelle par le journal qu'elle lit en dégustant les croissants en question. Je mettrai en rapport cette scène selon une symétrie inversée avec une scénette du Voyage au bout de la nuit. La militariste infirmière américaine Lola est présentée comme bien plus affligée par son léger surpoids, causé évidemment par les beignets des fêtes de charité patriotique dont elle est une fidèle habituée, que par les millions de guerres de mort de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une mise en perspective. Dans un roman de Kundera aussi, là c'est plutôt sympathique, c'est la maman pour qui les poires de toute façon sont en gros plan, et puis les chars soviétiques c'est à l'arrière-plan. Là c'est évidemment présenté de façon moins sympathique, c'est que les croissants sont absolument énormes, et puis le millier de morts du Lusitania en perspective, ou bien le surpoids, et puis... Seconde superposition, le traitement du thème paradoxal et scandaleux du déserteur courageux ou du planqué honoré. Traité par Proust à propos de Morel, comme il le sera de façon provocante par Drieu La Rochelle dans plusieurs des nouvelles de la Comédie de Charleroi, un livre de 1934, fascinant, sans doute un des meilleurs livres de cet écrivain, demeuré toujours farouchement individualiste, au-delà de ses engagements politiques aberrants, qui utilise aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a peu de grands recueils de nouvelles sur la guerre, toutes les possibilités perspectivistes du genre de la nouvelle pour livrer quelques visions profanatrices de la guerre de 14 et de l'après-guerre. Sujet traité pour la première fois sous la forme du quasi-déserteur valeureux. Dans la nouvelle éponyme de ce recueil, au terme de laquelle le narrateur, après avoir fait preuve, à ses yeux, suffisamment preuve de son courage durant toute une journée de combat acharné contre l'ennemi, est tenté, le soir venu, de fausser compagnie à des compatriotes qu'il méprise et de déserter. En plus, il croit la France vaincue. En fait, c'est en 14, donc il a simplement une guerre de retard. Il croit que ça va donner, enfin, ce que ça donnera en 40, et il s'en désintéresse. Hein. Il s'est fait à ses propres yeux la preuve de son énergie et de son courage. Maintenant, il faut qu'il fasse preuve de son indépendance d'esprit. Seconde forme du quasi-déserteur honoré dans Le Chien de l'écriture, où le planqué qui a réussi à échapper à Verdun fait gober à l'entracte à la femme qui l'accompagne, dans un cinéma où l'on projette un film sur cette bataille, le récit de ses prétendus exploits guerriers à Verdun. Récit auquel assiste avec un mélange d'indignation et d'amusement le narrateur, qui sait parfaitement à quoi s'en tenir sur les démarches fructueuses qu'a faites ce personnage pour échapper au front au moment où leur régiment justement devait y monter. Dernier exemple, le déserteur de bon sens, réfugié en Amérique du Nord, qui se prête de bonne grâce à une espèce d'interview auquel on le soumet et qui explique pourquoi il aurait été insensé de ne pas déserter. Pro, d'ailleurs, combien de Drieu La Rochelle, quand même, audacieux. Enfin, c'est toutes les contradictions de cet écrivain. Nouvelle de la Comédie de Charleroi, c'est quand même sur ce type de sujet. Alors de même chez Proust, c'est ce très étrange cycle de Morel durant la guerre ou et après-guerre. Morel est un personnage particulièrement ambivalent, retors et flou psychologiquement, mais aussi idéologiquement, depuis son apparition sur un quai de gare. Morel, brûlant de s'engager, retenu à grand-peine justement par Madame Verdurin, bourreur de crâne hein, dans les journaux, puis déserteur arrêté. Croit-il à tort en raison d'une vengeance de M. Charlus, en fait à cause des démarches qu'a faites Saint-Loup, son amant, pour retrouver sa trace. Puis, en l'honneur de Saint-Loup qui vient de mourir héroïquement au front, simplement envoyé au combat où il se conduit courageusement. Enfin, comiquement considéré après-guerre, à l'occasion d'un procès où il est appelé à témoigner comme l'une des plus hautes autorités morales qu'on puisse trouver en France. Ce cycle bouffon aussi, mais étrange, de Morel. Et puis, il y a une amorce à propos de Gilberte. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie. C'est très curieux. J'aimerais bien avoir les lumières des généticiens là-dessus, mais Proust est souvent loufoque. C'est-à-dire que Gilberte est censée avoir menti dans sa lettre au narrateur, puisqu'elle a prétendu qu'elle voulait aller défendre héroïquement Combray, et en fait, dit le narrateur, elle voulait se mettre à l'abri. Alors ça aurait été vraiment Gilberte Cribouille, puisque elle, Combray, est déplacée du côté de la ligne de front, du côté de Reims, de Nantes, et donc elle aurait voulu se mettre à l'abri. On peut très bien se mettre à l'abri en Touraine de la... pouvait se mettre en Touraine de la Première Guerre, pas de la jalousie en revanche, ça c'est un mauvais lieu pour la jalousie, mais en revanche pour la Première Guerre, on pouvait se mettre à l'abri à Guécombray du front. Mais en revanche, vouloir prétendre de la part du narrateur que Gilberte a voulu se mettre à mentir et qu'en fait elle voulait se mettre à l'abri. Et alors ensuite, il y a le début d'un cycle de Gilberte collabo avant la lettre, c'est-à-dire qu'elle trouve les Allemands très corrects. Elle les reçoit extrêmement bien. Et puis ensuite, les Français reprennent Combray et elle sera honorée pour sa bravoure patriotique, concert de louanges, etc. Et là aussi, évidemment, ironie sur cette dichotomie. Du point de vue biographique, bien sûr, et je renvoie en particulier aux travaux de Brigitte Mahuzier, qui est une des grandes spécialistes qui interviendra, je crois, dans la journée, une des grandes spécialistes de la vision proustienne de la guerre de 14, c'est Palinodi renvoie en partie aussi à l'angoisse d'être traité de planqué, voire d'être accusé de désertion parce qu'il avait perdu ses papiers militaires, qui a taraudé Proust, ainsi que le prouvent certaines phrases révélatrices de sa correspondance. Malade et ne pouvant servir quand tous les miens sont à la frontière, vous avez bien compris que je n'avais rien d'un embusqué, on en a déjà parlé. D'où sans doute, je compléterai simplement en soulignant certaines ambiguïtés dans le traitement de ces thèmes, certaines ambiguïtés étranges. Par exemple, à propos d'un autre double du narrateur, bien sûr, Octave dans les choux. Octave dans les choux est dans la même phrase, raillé par le narrateur en tant que planqué notoire. Bon, il faisait du sport, mais alors c'est toujours indécidable. On dit qu'il est quand même vraiment malade. Enfin, ça a été quand même, on l'a présenté comme un grand sportif. Et puis quand même, c'est suggéré que ça peut être un planqué. Et dans la même phrase, il va se révéler auteur inattendu d'une œuvre de génie. Même Saint-Loup. Bon, il est bien suggéré que c'est pour faire l'original que le pro-guerrier Saint-Loup joue durant un temps au lâche et à l'embusqué. Mais tout est fait pour suggérer que s'il s'engage finalement en première ligne où il trouvera la mort, c'est aussi pour des raisons érotiques troubles. Et alors, ce qui est une autre forme de profanation, il y a évidemment celle de l'homosexualité, parce que pour retrouver les mêmes sensations que celles de la cocaïne, ce qui est quand même aussi comme contamination, mais si dans la même phrase, ces phrases extrêmement longues, belles, sinueuses, qui finissent, la chute est héroïque. C'est vraiment une chute épique, héroïque, et entre-temps, on a suggéré le plaisir que trouve Saint-Loup à accoucher à la Belle Étoile avec les tirailleurs sénégalais, et puis le souvenir des expériences fortes de la cocaïne. C'est indécidable, et on sait combien Proust peut être fort dans l'indécidable. Ces contradictions idéologiques, en fait, se traduisent justement par ces affirmations très contradictoires les unes par rapport aux autres dans la même phrase. Et à propos de cette mauvaise conscience, évidemment, il y a... Et là, Proust est un peu mauvais goût, me semble-t-il, enfin... le témoignage de Céleste selon lequel M. Proust répétait si souvent durant la guerre que chacun devait faire son devoir à sa place. Son devoir à lui étant d'écrire son livre, de même que celui des soldats était de combattre. Étrange et révélateur portrait culpabilisé de lui-même, achevant l'essentiel de son œuvre, reclus dans sa chambre du Paris de la guerre, en soldat de la littérature. Donc voilà un certain nombre de convergences avec en même temps des écarts que j'ai essayé de souligner à chaque fois avec toute une littérature sur la guerre de 14. Donc il y a incontestablement des thèmes plus sulfureux chez Proust que ces leitmotifs qui sont d'une certaine banalité à propos des planqués, des snobs, des profiteurs de guerre, etc. Peut-être que l'essentiel, du point de vue de la spécificité, du caractère original et profanateur de la vision proustienne de la guerre, c'est peut-être que cette Première Guerre mondiale, qu'on a si souvent perçue en France comme un événement inouï, sans précédent, sans postérité, soit constamment ramené dans le temps, trouvé à des comparaisons, à des continuités. Constante, remarquable, quelles que soient par ailleurs les ambiguïtés idéologiques d'un livre qui peut sembler tour à tour antimilitariste et chauvin, puisque les hymnes fervents à la France sublime des La Rivière et de Saint-André-des-Champs compensent ce que pourrait avoir de trop sulfureux la satire du jusqu'au boutisme de l'arrière précédemment évoqué. Et ce qui est une compensation majeure aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est que en matière de défaitisme comme en matière d'homosexualité, le narrateur n'en est pas. C'est très très souvent souligné. Même si le narrateur et Charlus parfois pensent de la même manière, le narrateur, lui, se présente comme étant d'un patriotisme aveugle, ce qui est contradictoire d'ailleurs avec ce qu'il dit, alors que Charlus est homosexuel et largement quand même défaitiste. Le narrateur, lui, n'en est pas à ce point de vue-là aussi. Justement, à cet égard, dans cette contradiction qui est plutôt un oxymore entre le patriotisme fervent de certains passages et puis ces dénonciations dont on a parlé, je pense qu'une association frappante qu'on trouve à propos justement de l'après-guerre, dans le temps retrouvé, bien correspond à la vision proustienne de la guerre, 432, l'écume de niaiserie et le rayonnement de gloire qu'a entraîné cette guerre. Et on trouve les deux dans le chez Proust. On trouve effectivement l'écume de niaiserie, enfin, plus qu'une écume même, et tout de même le rayonnement de gloire qui la mort de Saint-Loup, et même sous une forme évidemment bien plus sentimentale et mélodramatique, les cousins de Françoise, etc. Mais il y a ce comparatisme constant, générateur d'effets de distanciation. D'abord, dans les conversations du narrateur avec Saint-Loup, c'est un comparatisme stratégique qui dégage des analogies ostensiblement soulignées entre les tactiques mises en œuvre dans toutes les guerres du passé et du présent, entre telle manœuvre d'Hannibal ou de Napoléon enseignée dans les écoles de guerre et tel mouvement des armées de Joffre. D'ailleurs, sans que le personnage qui dit « je » semble s'apercevoir que son lecteur peut alors être tenté de reconnaître en lui une figure peu sympathique de l'arrière, celle du stratège en chambre. Et à certains égards, parfois on est quand même choqué, en fonction justement de ce que Proust dénonce, mais Proust est tellement génial qu'il permet évidemment de dénoncer ses propres... On l'applique bien sûr à lui-même, c'est un point commun avec le freudisme justement, peut-être sur lequel je reviendrai un peu plus tard. À certains moments, le narrateur fait le stratège en chambre quand même. À d'autres moments, comparatisme mystique de type tolstoïen. Hein, Tolstoï est très présent à propos de la guerre de 14 et le retour, évidemment, le souvenir de guerre et paix que connaissait très bien Proust est présent dans le temps retrouvé. Comparatisme mystique qui oppose la sérénité du grand ciel bleu de Paris avec un souvenir du grand ciel d'Austerlitz, très probablement de guerre et paix, au moment des alertes, à la folle agitation belliqueuse des hommes. C'est un beau passage, justement. Sérénité de l'éternel par opposition. Un passage aussi romantique, on peut dire aussi, d'ailleurs. C'est aussi un topos romantique. Et puis, comparatisme de l'incongruité métaphorique qui relativise la spécificité de la guerre elle-même en rapprochant celle-ci, par exemple, d'une maladie qui attaque sur de multiples fronts à la fois, très souvent d'une rupture amoureuse, survenue par accident à la suite d'un bluff mutuel, beaucoup de convocations du roman avec Albertine à propos des rapports de la France et de l'Allemagne. Une méchante querelle entre deux gigantesques individus, c'est évidemment le principe proustien dont Anne Henry a montré que c'était anti-sociologie, enfin que c'était une partie de la sociologie, mais pas la sociologie de Durkheim, aller du plus petit, de l'individuel, au plus collectif. Hein, il n'y a qu'à voir comment fonctionnent les querelles entre individus, une méchante querelle dans la rue pour comprendre les origines du déclenchement de la guerre entre la France et l'Allemagne. Ou probable, mise en abîme à la recherche du temps perdu, bien sûr, un livre qui ne se conforme plus au fur et à mesure de son élaboration aux plans initiaux de son auteur. C'est aussi un passage très célèbre. L'incongruité de ces analogies a quelque chose d'original et d'un peu profanateur. Il y en a beaucoup, bien sûr, ce chapelet comparatiste d'analogies qui montre tout simplement que la guerre est comparable. La guerre de 14 est comparable à toutes sortes de domaines du passé, à d'autres champs de l'activité humaine, etc. Et puis, il y a une des spécificités marquantes de la vision proustienne de la guerre, celle de rapporter très souvent celle-ci à un mécanisme déceptif, et d'en faire une simple illustration, un simple cas particulier de cette problématique des croyances illusoires qui traversent toute la recherche. Et à ce sujet, je renvoie aux travaux de Luc Fraisse et à une bonne thèse qu'il a dirigée, soutenue à l'Université de Strasbourg, la notion de croyance chez Proust, hein, qui vraiment balise l'ensemble de ce champ passionnant. En fait, la notion de croyance déborde de beaucoup, bien entendu, chez Proust, le domaine des seules croyances religieuses et implique toutes sortes d'adhésions, d'autant plus fortes qu'elles ont pour source des éléments hétérogènes et à demi inconscients, d'ordre à la fois affectif, intellectuel, moral, spirituel, etc. Et autre spécificité proustienne intéressante, la dimension individuelle de ces adhésions, mythe personnel, idéologie privée, si l'on peut dire, religion solitaire, apparaît aussi importante que leur dimension collective. Or, la guerre de 14 est précisément perçue dans la recherche comme ce gigantesque phénomène situé par excellence au point de convergence de lois psychologiques, de schémas mentaux et de croyances qui mettent en jeu à la fois le collectif et l'individuel. Ce n'est donc pas d'abord, comme dans toute une littérature réaliste de témoins, en tant qu'horreur inouïe qui sera suggérée par tout un arsenal de procédés mimétiques, entendu dans le feu en particulier, qui sera dénoncé la guerre, mais de façon moins immédiate, plus analytique et moins indignée en tant qu'erreur, en tant qu'illusion parmi d'autres. Croyances successives qui ont à chaque fois, on pourra le noter, quelque chose de faussement rassurant. Croyances selon laquelle le bluff à la guerre n'entraînera pas la guerre, de même que le bluff à la rupture est censé ne pas entraîner la rupture. Croyance en une guerre courte, que partage d'abord, comme beaucoup d'autres, Saint-Loup. Croyance relative à la méchanceté foncière de l'ennemi. Et là, à certains moments, il s'agit de la vision de l'Allemagne par la France, mais c'est le plus souvent la vision de la France par l'Allemagne. Quand même, respect des hiérarchies. Croyance au bobard de la propagande de guerre. Et à ce sujet, il y a vraiment, quand on a lu Proust aussi, quelque chose de fascinant dans les découvertes récentes des historiens, selon lesquelles les exactions allemandes dans les territoires occupés n'auraient pas été finalement de la propagande de guerre. C'est-à-dire qu'on a, quand on pense que, bon, dans un premier temps, tout le monde a cru qu'effectivement, les Allemands coupaient les mains des enfants dans les territoires occupés. Pendant trois quarts de siècle, on a été convaincu que c'était de la propagande de guerre. Et la dernière orientation des travaux des historiens, Annette Becker, enfin les Becker et compagnie, c'est de penser qu'il y a eu des exactions très graves. Et de toute façon, le nazisme n'est quand même pas né. Enfin, il y a eu quand même, c'est très bien, même au début, tournant du siècle, c'est évoqué dans la littérature très souvent, la montée des corporations, etc. Il y avait quand même une part de l'armée allemande qui n'était pas très... Donc, ce qu'on a pensé être... Il y a une réévaluation. Donc, l'idée de croyance... Les trois temps de la croyance, et maintenant on peut penser que c'est une vérité historique jusqu'à ce qu'elle soit remise en cause. Enfin, l'évolution pendant vraiment, enfin encore dans mes années d'étudiant, on était persuadé que c'était uniquement de la propagande de guerre. Apparemment, il s'est passé justement des choses très graves et cette occupation a été complètement occultée, contrairement à la deuxième occupation. L'occupation a été perçue comme quelque chose de honteux. Il y a eu une conspiration du silence pour cette immense, enfin, cette partie considérable de la France qui a été territoire occupé. Croyance dédramatisant la mort, et là, c'est là que Proust rejoint Freud de façon étonnante et émouvante, hein, ces fameux textes sur la guerre de 14 qui sont si lucides, qui sont si étonnants de Freud. L'inconscient ne croit pas à la mort, et aussi l'inconscient heureux de Madame Verdurin d'ailleurs, la mort de millions d'individus nous chatouille à peine. Donc non seulement la mort des ennemis est indifférente, mais même celle de civils innocents provenant de pays amis ou de soldats de son propre pays, ainsi que le prouve cette fameuse scène exemplaire des croissants, ou bien encore... L'échec du maître d'hôtel qui souvent atteint ses objectifs, c'est-à-dire mettre Françoise dans un état de nerfs épouvantable, mais là il manque son coup parce qu'il lui donne des chiffres abstraits, faramineux, et Françoise n'est pas intéressée. Autant le marquis ça l'intéresse, la mort du marquis, mais quand il s'agit de gens qu'on ne connaît pas, ça ne l'intéresse pas, aussi nombreux soient-ils. Et puis surtout, on ne croit pas en sa propre mort. Et c'est même y compris le soldat. Et en d'autres termes que Freud, mais aussi limpidement en somme que Freud dans ses considérations actuelles sur la guerre et sur la mort de 1915, voilà. Personne au fond ne croit à sa propre mort ou ce qui revient au même. Dans l'inconscient, chacun de nous est persuadé de son immortalité. Et à l'ombre des jeunes filles en fleurs, le soldat est persuadé qu'un certain délai indéfiniment prolongeable lui sera accordé avant qu'il soit tué. Ou encore, comme on se dit « je peux mourir ce soir », on se le dit, mais on ne le croit pas, on fait des projets pour le lendemain. Et évidemment, la maladie, l'aggravation de la maladie de Proust pendant la guerre de 14 le mettait quand même dans une certaine mesure dans la même situation que celle des soldats, d'une mort prochaine inéluctable et en même temps quasiment inéluctable, en même temps à laquelle il ne croyait pas. Deux types d'analogies récurrentes, respectivement avec les lois de l'amour et avec la Genèse ou avec la structure de certaines œuvres romanesques, qui sont censées expliquer par le jeu des illusions et des erreurs, le mécanisme du déclenchement des hostilités entre la France et l'Allemagne, ainsi que le prolongement indéfini de ces hostilités, sont particulièrement paradoxales quand il s'agit d'une gigantesque guerre, qui semble d'une part impliquer le contraire même des amours individuels, la haine collective, et d'autre part procéder de la réalité matérielle et brutale, la moins fictionnelle, la moins déréalisable qui soit. Deux formes d'analogie paradoxale fréquentes aussi chez Proust. Alors, cette analogie par proportionnalité surprenante qui ressuscite le souvenir d'un amour de Swann et qui associe à elle seule d'ailleurs les deux points de référence, celui des amours et celui du romanesque. Les Allemands croient en la méchanceté des Français aussi naïvement que Swann aurait pu croire en la vertu d'Odette. Odette est une femme difficile pour Swann, d'où il bâtit tout un roman qui ne devient que plus douloureux quand il comprend son erreur. Les Français ne rêvent que la revanche aux yeux des Allemands. De même que le bluff à la déclaration de guerre a conduit à la déclaration de guerre, de même le bluff à la rupture aura conduit le narrateur à la rupture. Et là intervient le souvenir exemplaire de ce qui est appelé souvent, je vous rappelle, un roman, le roman d'Albertine. En un passage célèbre, le perspectivisme du roman dostoïevskien, Tolstoï est présent, mais aussi bien sûr Dostoïevski très fortement durant ces années de guerre, et aussi à travers la révolution russe, la Russie est présente dans d'une autre manière. Donc le perspectivisme du roman dostoïevskien est invoqué à titre de modèle qui permettrait de raconter l'histoire des illusions et les croyances qui se sont trouvées peu à peu rectifiées au fil des années de guerre. Dostoïevski introduisant une dimension temporelle qui n'existe sans doute pas dans l'autre grande référence de Proust à cet égard, qui est le début de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Donc vision très partielle, mais aussi, surtout à partir de Dostoïevski, changement de perspective dans le temps. L'amour est aussi arbitraire que la haine, le patriotisme du narrateur, comme la germanophilie de Charlus, se réduisent à une incompatibilité entre deux croyances arbitraires, à un double aveuglement amoureux. Enfin, dans une certaine mesure, la germanophilie de Monsieur de Charlus, comme le regard de Saint-Loup sur la photographie d'Albertine, m'avait aidé à me dégager pour un instant, sinon de ma germanophobie, du moins de ma croyance en la pure objectivité de celle-ci, et à me faire penser que peut-être en était-il de la haine comme de l'amour, et que, dans le jugement terrible que portait en ce moment même la France à l'égard de l'Allemagne, qu'elle jugeait hors de l'humanité, l'expression intéressante évidemment, y avait-il surtout une objectivation de sentiments comme ceux qui faisaient paraître Rachel et Albertine si précieuses, l'une à Saint-Loup, l'autre à moi. On peut se demander si de telles réductions relativisantes et déréalisantes à des effets de croyances illusoires et de mirages ne sont pas bien plus sacrilèges par rapport à la vision largement dominante, quels que soient les camps idéologiques en présence, de ce réel inouï et incommensurable à toute comparaison qu'aurait été la Grande Guerre, que tel propos défaitiste prêté à un extravagant comme Charlus, sur lequel on s'appesantit pourtant plus souvent. Mais je crois que c'est Antoine Compagnon qui a montré déjà que Charlus était quand même un personnage à part, donc c'était évidemment facile de lui prêter ce qui était le plus sulfureux, avec l'idée que ça ne tirait pas trop à conséquence, parce que Charlus était un fou, parce que Charlus était un extravagant. Autre forme de continuité essentielle, celle qui fait entrer dans la guerre, avec leur petitesse et leur ridicule nullement sublimés, tout un personnel romanesque antérieurement conçu. On les reconnaîtra donc facilement. Le déguisement ne fait pas illusion au lecteur qui a déjà, qui les connaît déjà bien par les milliers de pages qui précèdent. On reconnaîtra leur caractère immuable sous leur travestissement guerrier, plus aisément encore que plus tard, on peut le dire, lors du bal de tête, leur visage sous les masques du vieillissement. La reconnaissance psychologique est plus facile. Et là, la comparaison qui vient à l'esprit, c'est l'éducation sentimentale, qui a eu une très forte influence sur Proust, de la lecture duquel Proust est imprégné, c'est la conversion à l'extrémisme révolutionnaire des pires personnages, finalement, comme Sénécal. C'est vraiment la révolution de 48. Proust s'est certainement souvenu de la révolution de 48, de cette bouffonnerie, du travestissement au moment dans le club de l'intelligence. On reconnaît parfaitement les mêmes qui se sont métamorphosés en jusqu'au boutisme de la révolution et des mesures rouges les plus radicales. Ce sont les mêmes vieilles connaissances que l'on retrouve reconverties chez Flaubert en agitateur et enrhéteur de la Révolution de 48, chez Proust en reine du Paris de la guerre, Madame Verdurin, Madame Bontemps, Odette ou en bourreur de crâne, Norpois, Brichot, Le Grandin. Et indice grammatical significatif, les sarcasmes sur les personnes grammaticales qu'ils emploient. C'est ridicule. Aussi bien les « je » que les « nous ». Leur « nous », le « nous » de Madame Verdurin est ridicule, « nous exigeons du roi de Grèce », etc. Les « je » de Norpois, on les reconnaît, ce sont des « je » dissimulés. Hein, et Madame Verdurin lui conseille de... les « je », alors il y a les « je » de Brichot, les « je » transformés en « on » sous le... la pression de Madame Verdurin ou les jeux de dette, je pense qu'ils ne prendront pas vers ce vide, etc. Et justement, ces jeux boursouflés, que ce soit, même si ce sont des nous, c'est encore plus ridicule, les jeux sont ridicules, les nous sont ridicules, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas sublimation, contrairement au mythe pieux de l'abolition des intérêts individuels au sein de la communauté patriotique ou révolutionnaire, chez Flaubert et chez Proust, il n'y a nullement abolition en ces temps d'exception des intérêts individuels. Au contraire, hein, il y a arrivisme forcené, il y a stratégie individuelle bouffonne. Et là aussi, c'est très sulfureux par rapport à ce mythe du sacrifice de l'individu qui est vrai au front, justement, qui n'est pas un mythe au front, mais qui, à l'arrière, est absolument dérisoire et ridicule. Donc on peut dire que la permanence des comportements et des idiolectes représente dans le roman de Proust un discret déni de l'importance et de la nouveauté de l'événement. Les choses sont les mêmes. Et les mots sont les mêmes. Il y a des formulations tout à fait étonnantes à propos des mots et des choses dans Le Temps retrouvé. Voilà, page 309. Les choses étaient tellement les mêmes qu'on retrouvait tout naturellement les mots d'autrefois. Même une affirmation frappante. En outre, la guerre de 14 est très souvent, presque systématiquement, évidemment on l'a souvent remarqué, associée dans Le Temps retrouvé à l'affaire Dreyfus, dès la première apparition de la guerre dans le roman. Alors ça peut prouver deux choses. Ça peut prouver soit que cet ancien partisan de Dreyfus a vraiment pris l'affaire très au sérieux, soit plutôt que Proust n'attend désormais plus la fin de ses grandes affaires publiques prétendument capitales pour les appréhender sous l'angle réducteur et dépréciateur qui caractérise, si l'on peut utiliser ce mot justement de révision pour l'affaire, la révision littéraire qu'il a opérée pour son propre compte déjà dans La Recherche. Ce compagnonnage constant entre la guerre et l'affaire Dreyfus mettra surtout au jour, dans le temps retrouvé, la continuité dans le snobisme des bavardages de salons prétentieux relatifs aux grands événements politiques du temps et dans les stratégies individuelles d'arrivisme mondain à la faveur de ces événements. Une citation célèbre, mais que je n'ai pas résisté au plaisir de donner. Alain Verdurin disait: vous viendrez à 5 heures parler de la guerre, comme autrefois parler de l'affaire, et dans l'intervalle, vous viendrez entendre Morel. Mais ce sont aussi la permanence et la vanité du va-t-en-guérisme que démontre aux yeux de Proust le jeu des ressemblances profondes et des oppositions apparentes entre les deux engagements, quelque forme que ceux-ci prennent et quelles que soient les justifications que donnent de leur palinodie d'anciens Dreyfusards quelques années auparavant antimilitaristes et anticléricaux qu'on retrouvera durant la guerre prosélytes du militarisme le plus fanatique. Il y a une autre volte-face, c'est évidemment de la mémoire de génération, qui est évoquée, c'est celle d'anciens communards droitisés, hein, qui était évoquée aussi dans le temps trouvé. En fait, et je crois que c'est très important du point de vue des générations, enfin les gens de ma génération l'ont vu à propos de 68, la reconversion des anciens 68ards à la mondialisation, enfin certains quand même, à la mondialisation financière la plus lucrative. Ça fait partie de ces expériences tragi-bouffonnes de génération qui conduisent à penser que plus rien n'est sérieux en ce domaine. Et c'est aussi la raison pour laquelle les jeunes gens sont moins blasés, parce qu'ils n'ont pas encore vu cela. Il faut évidemment en avoir fait l'expérience soi-même pour ne plus avoir d'illusions. Donc là, constamment, c'est le... Et cette volte-face a été très importante. En fait, on a perdu un peu le sentiment de cela. C'était inouï, quelques années plus tard, de voir les anciens Dreyfusards. Le dreyfusisme, ça a quand même été aussi une forme d'antimilitarisme, puisque l'armée était compromise, etc. Donc de les voir comme Bontemps, par exemple, qui est le personnage emblématique à cet égard, devenus jusqu'au boutisme les plus extrémistes, fusillent tout le monde, tous les mensonges sont bons aussi, puisque la fameuse affaire du Bordereau, c'était un seul mensonge, là tous les mensonges sont sacrés au nom du bourrage de crâne. Il y a d'autres comparaisons d'ailleurs plus paradoxales avec l'affaire Dreyfus, mais ça revient constamment. Il y a aussi la générosité des vrais, de ceux qui étaient sincères, des Dreyfusards sincères, comme les patriotes chevaleresques qui se conduisent noblement vers, qui ne diraient jamais des choses odieuses sur leurs ennemis, par exemple. Et puis, il y a aussi alors une sorte de rime intéressante, défaitisme, Dreyfusisme. C'est l'ostracisme. Autrefois, enfin dans certains milieux, être Dreyfusiste, c'était vraiment l'abomination. C'était le crime pour lequel il n'y avait pas de pardon, et maintenant, c'est défaitisme. Défaitisme rime vraiment avec Dreyfusisme. Par exemple, 370, page 379 dans les Sillons de la Pléiade, il gardait tout son respect, il s'agit de Charlus, et toute son affection à de grandes dames accusées de défaitisme, comme jadis à celles qui avaient été accusées de Dreyfusisme, d'écho phonétique intérieur. Ce thème du reniement de ses convictions passées en 14, en fait, on le trouve bien plus développé dans des textes qui évoquent le mouvement socialiste ou qui sont des textes sympathisants socialistes eux-mêmes. En particulier, on parlait de Jules Romain, dont les textes, les œuvres sur la guerre de 14 sont vraiment magnifiques, et Jules Romain est un peu discrédité injustement. Hein. En fait, il ne s'est pas remis d'avoir, au lieu de garder son nom Louis Farigoul, il a pris ce ridicule, et ça lui nuit, à mon avis, ça joue dans le discrédit. Mais, enfin, bon, il y a d'autres éléments idéologiques, il y a le fait qu'il est perçu maintenant comme trop traditionnaliste, comme trop balzacien attardé, mais c'est vraiment un écrivain intéressant. Enfin, il a une. Mais là, je penserais plus, enfin, Jules Romain évoque un peu cela, mais surtout Martin Dugard. L'été 14 de Martin Dugard, qui se passe à travers Jacques dans les milieux socialistes, anarchisants, pacifistes, qui font tout pour s'opposer à la guerre, avec les dernières illusions, l'arrivée du représentant de l'International socialiste, et puis le ralliement terrible, scandaleux à l'Union sacrée dans tous les pays, à Berlin, à Paris, etc. Le fameux, c'est très très bien évoqué dans l'été 14 de Martin Dugard. Et en fait, c'est prêt. Ça a été perçu vraiment comme un scandale inouï, le fait que le gouvernement n'ait pas eu à utiliser le fameux carnet B qui recensait les militants suspects. Le gouvernement a eu la générosité, la grandeur d'âme au nom de l'Union sacrée de ne même pas mettre en résidence surveillée les militants, tellement l'Union sacrée avait gagné, à quelques exceptions près justement, vraiment... toutes petites exceptions près. Et d'ailleurs, il n'y a aucun exemple de personnage de Jacques Thibault qui irait lâcher des tracts. Hein, c'est très beau d'ailleurs, mais en fait, il n'y a pas de modèle historique à cette mort de Jacques Thibault essayant d'appeler les deux armées à la réconciliation, à l'arrêt de la boucherie. Donc on se rend plus compte combien ça a pu être scandaleux pour les socialistes pacifistes et combien ça a pu être dérisoire et ironique pour des analystes critiques comme Marcel Proust, que cette volte-face, ce retournement de veste, comme on a dit vulgairement plus tard, etc. Donc en somme, la vision de la guerre chez Proust, c'est un premier procès à la littérature engagée tout entière. Et au fond, Sartre a dit beaucoup de mal de Proust, mais Proust fait avant la lettre aussi une critique véhémente de la littérature engagée. Vraiment, c'est une des formes les plus fortes, hein, les plus radicales de rejet, de Sartre et de vision sarcastique de la littérature engagée. Superposition des mots d'ordre politiques opposés et des injonctions successives adressées à l'artiste pour qu'il sorte de sa tour d'ivoire au moment de l'affaire Dreyfus. Nous sommes à gauche, au moment de l'affaire, c'est pas perçu comme ça, enfin quand même un peu à droite au moment de la guerre de 14, même si la gauche a été aussi très patriotique. Disons que ça, justement, ça dépasse ces clivages, ça discrédite la littérature engagée tout entière, à laquelle Proust attente en somme. Je parlais de procès avant la lettre, un premier procès d'arrest, le fameux procès d'arrest des surréalistes après-guerre. Mais Romain Rolland n'est pas épargné, lui non plus. Hein. Et là, c'est aussi, même la littérature engagée pacifiste, finalement, est critiquée. Proust dit dans une... écrit qui ne veut pas sembler faire du Romain Rolland dans Les brouillons de la matinée publié par Henri Bonnet et Bernard Brun dans Matinée chez la princesse de Guermantes. L'idée d'un art patriotique comme d'un art populaire me semblait ridicule, là c'est dans le temps retrouvé. Toujours cette symétrie et le rejet de tous les engagements collectifs eux-mêmes, et là effectivement Proust redevient flaubertien, engagement collectif toujours suspect chez Proust comme chez Flaubert de bêtises haineuses et moutonnières. Et je citerai un passage saisissant justement qui n'a pas été repris mais qui est beau dans Matinée chez la princesse de Guermantes, qui utilise les etc. de façon très saisissante. Et etc. allusif, là, méprisant. Si bien que tout le monde clame en cœur, la France ou français, le christianisme est contre nature, pas de paix boiteuse, etc. Nous n'avons pas voulu la guerre. Maintenant, il nous faut l'Alsace-Lorraine, etc. Et nous faisant à peu de temps estimer et mépriser François-Joseph, auguste et méprisable, le roi de Serbie, assassin, puis vénérable, etc. Et les Japonais, monstres pour les Russes, puis leurs alliés, les Anglais pour les Beurs, etc. Et ça continue encore, il y a vraiment un amalgame de tout ce qui a été dit dans les bourrages de crâne successifs, dans les détestations surtout successives, etc., etc. C'est toujours la même chose. Mais pour en revenir à l'anti-wagnérisme, etc. Comme toutes les idéologies changent, mais se succèdent sans interruption, l'homme intelligent qui ne donne pas dans elle a en réalité un perpétuel rocher de Sisyphe à remonter. Et la chute vraiment très belle, il croit avoir fini de l'anticléricalisme, on sait que Proust a protesté contre les persécutions infligées aux congrégations, alors l'antisémitisme commence, il a fini de l'antisémitisme, c'est l'antigermanisme. C'est un rapprochement qui n'était pas si fréquent. Enfin, sur un plan spécifiquement esthétique, la fréquente insignifiance manifeste de cette littérature de témoins, lorsqu'elle émane d'écrivains médiocres que le fléau n'aura nullement transcendé, médiocrité à laquelle Proust fait allusion sans phare dans Le Tort trouvé, fournit en fait un second volet didactique imprévu, symétrique du premier, pour la démonstration originaire qui est à la source du contre-Sainte-Beuve. Si des sujets infinitésimaux, réminiscence involontaire grâce à une madeleine et à une tasse de thé, contemplation intense d'aubépine, etc., peuvent revêtir une importance artistique capitale, en revanche, les sujets en apparence les plus grandioses, comme une guerre mondiale, pourront se révéler parfaitement dépourvus de valeur pour la vie de l'esprit et pour la création littéraire. Et Annick n'est pas là, puisque c'est la grande spécialiste des pastiches, mais il y a des pastiches moins souvent étudiées, dans le temps retrouvé, des pastiches de la mauvaise littérature sentimentale et mélodramatique. L'édition de la Pléiade, effectivement, cite un passage des Croix de Bois auxquelles ça pourrait s'appliquer, mais au fond, avant la lettre, Proust fait peut-être une satire du behaviorisme, du faux laconisme du behaviorisme, là aussi peut-être de l'âge d'or du roman américain, il faudrait voir, mais ces passages, pages 323-324, je n'ai pas le temps de les citer, sont tout à fait, puis il y a la satire aussi des couturiers, du discours des couturiers qui respectent, qui veulent lancer des modes tout en respectant bien sûr la décence du deuil, etc. Donc des pastiches encore à cet égard. Et pourtant, certaines convergences inattendues et importantes peuvent apparaître avec cette littérature de témoins en matière d'esthétique du macabre. Et là, on en avait parlé avec Nathalie, j'étais très intéressé par un article de Nathalie, dont je vais citer un extrait. On peut se demander s'il ne s'est pas opéré durant la guerre, dans l'esprit de Marcel Proust, un processus de condensation entre son bal de tête final conçu antérieurement, qui se proposait de décrire en une série de visions à la fois réalistes et baroques les dégâts parfois monstrueux causés par le temps sur les têtes en question. Je ne pus, malgré ses sourires et ses bonjours, la reconnaître en une dame aux traits tellement déchiquetés que la ligne du visage n'était pas restituable, et les ravages causés chez des êtres bien plus jeunes par certaines blessures de guerre sur les visages de ceux qu'on a appelés les gueules cassées, dont les mutilations effrayantes et pitoyables commençaient à s'offrir au regard un peu partout dans les rues. Être dévisagé par la guerre ou par le temps, selon l'expression qu'emploie à la mort de Saint-Loup Françoise, jusqu'au bout voyeuse, dévisageuse du deuil et de la mort des autres. Remarque dont la cruauté est, comme souvent dans la recherche, à la fois soulignée et atténuée par la faute de Français insolite. « Pauvre dame, disait-elle en pensant à Madame de Marsante, qu'est-ce qu'elle a dû pleurer quand elle a appris la mort de son garçon ? Si encore elle avait pu le revoir, mais il vaut peut-être mieux qu'elle n'ait pas pu, parce qu'il avait le nez coupé en deux, il était tout dévisagé. » Ce processus de condensation autour d'un imaginaire lié à la fragmentation ou à la décomposition des visages, sous l'effet du temps, de la guerre, ou à travers la simple vision qu'en donne un artiste original, inclut probablement d'autres références dont la sculpture, ainsi que le montre la fin d'un article de Nathalie, en grande partie consacré au rapport de Proust et de Rodin. Vous voyez cette citation. Contexte guerrier, et en fait tu étais un peu dubitative, et il me semble que la fin de ton article corrobore plutôt cette hypothèse de condensation entre ces différentes visions des visages des figurés qui passent aussi par Rodin ou Maillol pourraient faire un chef-d'œuvre avec une matière affreuse qu'on ne reconnaît pas. La remarque dans le contexte de ces têtes arrachées, de ces corps morcelés par la violence de la guerre, ne ferait-elle pas référence aux aspects les plus modernistes de la pratique de Rodin, la fragmentation de la figure humaine et sa recomposition en figure partielle? Alors, il est temps que je conclue, mais la conclusion est un peu longue elle-même. Donc la confrontation de ce que Proust pouvait connaître de la dureté de la guerre à l'avant contemplerait, rappelons-le, trois des hommes qui ont été les plus proches de lui. Et je vais opposer justement trois trios très importants dans la vie de Proust. Et deux trios plutôt. Donc un trio de bourreurs de crâne et un trio de relations très proches, d'être très proches de Proust qui ont fait la guerre à l'avant. Donc trois des hommes qui ont été les plus proches de lui. Son frère Robert, mobilisé comme médecin ambulancier. Reynaldo Hahn, dont les lettres ont constitué l'une de ses principales sources d'information. Et Bertrand Fénelon, qui trouve la mort au front en 1915. Avec la guerre à l'arrière, celle du snobisme patriotique, de l'embuscage et du bourrage de crâne, auxquels ont pris part en particulier cet autre trio capital pour la vie et pour l'œuvre de Proust, constitué de Bergson, qui voyait dans ce conflit un combat entre la civilisation et la barbarie, d'Anatole France, auteur durant cette même année 1915 de « Sur la voie glorieuse » qui contenait des perles comme « Ils sont partis avec une gaieté charmante » et de Robert de Montesquieu sur les offrandes blessées duquel Proust ironise dans sa correspondance. Là aussi, reconversion des symbolistes les plus éthérés, des décadents les plus extravagants en bourreur de crâne qui ne pouvait que susciter l'ironie amère de Proust. Donc cette confrontation ne rejoint pas seulement les thèmes amers habituels de toute une littérature de témoins dont les croix de bois du concurrent de Proust au prix Goncourt 1919, elle correspond aussi à de grands leitmotifs proustiens. Le perspectivisme de l'incompatibilité des points de vue entre être pourtant proche, la critique de la mauvaise abstraction inhumaine, dans la littérature comme dans la vie. Une espèce de psychosociolinguistique héritée de Flaubert, de la bêtise et du cliché. Mais ce qui distingue Proust de la plupart de ses contemporains, quelle que soit leur idéologie et quelles que soient ses propres fluctuations idéologiques, allant du patriotisme édifiant au pacifisme, dont le temps retrouvé et plus encore les fragments de matinée chez la princesse de Guermantes portent l'empreinte, c'est la conviction que cette grande guerre n'aura rien changé d'essentiel dans les esprits. Une formule qu'on trouve dès novembre 1914 dans une lettre à Daniel à Lévy. La grande guerre n'aura rien changé d'essentiel dans les esprits. Et plus généralement, n'aura pas amené les grands changements qu'on croyait. Pour Proust, elle aura seulement été une illustration, une confirmation. De quoi ? De la manière dont les événements publics peuvent être instrumentalisés au service d'intérêts individuels mesquins. De la constance des haines et de la sottise en politique au-delà des palinodies que la succession des engagements des mêmes dans le camp de Réfusard puis dans celui de l'Union sacrée a en particulier mis en évidence. Du peu de fiabilité et de l'arbitraire des croyances individuelles ou collectives. Enfin, et là c'était un second volet au fond providentiel du point de vue esthétique pour Proust, du peu de valeur, du réalisme comme du grandiose en littérature. Mais la principale et la plus bouleversante de toutes ces séries auxquelles se rattache la guerre dans l'esprit de Proust du point de vue humain est sans doute celle des deuils. Mort d'amis de jeunesse, mort de sa mère, mort d'Agostinelli et des souffrances créatrices. Je cite une formule d'Aude Leroux qui gagne justement dans son ouvrage consacré aux représentations proustiennes de la mort, emblématique du rôle créateur que peut posséder la destruction, la guerre illustre l'idée oxymorique d'une destruction intrinsèquement créatrice. Or, ce deuil, à partir de 1914, il se trouve autant lié pour l'écrivain à la destruction d'une époque et d'une civilisation qu'à la mort d'êtres chers de la vie privée. Et pour finir, je remarquerai à quel point se superpose exactement et étrangement la célèbre citation du temps retrouvé qui fait de l'idée de la mort une substance interposée, un filtre incontournable que doivent désormais traverser les moindres pensées du narrateur, et l'image contenue dans la citation empruntée à la correspondance sur laquelle s'achève le texte de présentation de notre séminaire de cette année. Et Nathalie, avec sa science habituelle, a rétabli « Je vois dans la guerre, comme on aimé en Dieu, je, c'est pas je vis dans la guerre, c'est je vois dans la guerre ». Et la superposition des deux citations est justement exemplaire. Cette idée de la mort s'installa définitivement en moi comme fait un amour. Maintenant, sa pensée adhérait à la plus profonde couche de mon cerveau si complètement que je ne pouvais m'occuper d'une chose sans que cette chose traversât d'abord l'idée de la mort. Et la citation, donc en exergue du séminaire de cette année, je l'ai hélas assimilé la guerre si complètement que je ne peux pas l'isoler. Je ne peux pas plus parler des expériences et des craintes qu'elles m'inspirent qu'on ne peut parler des sentiments qu'on éprouve si profondément qu'on ne les distingue pas de soi-même. Elle est moins pour moi un objet au sens philosophique du mot qu'une substance interposée entre moi-même et les objets, comme on aimait en Dieu, je vois dans la guerre. Je vous remercie.